Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin sur BFM Business et sur RMC Découverte, c'est avec Thierry Laborde. Bonjour, vous êtes le directeur général délégué de BNP Paribas. On va parler bien sûr du marché bancaire, de consolidation, d'union des marchés des capitaux. Mais avant, on avait cette information sur le secteur aérien, 1000 milliards de dollars de revenus, 5 milliards de passagers prévus. Tout ça, ce sont des chiffres pour 2024 qui nous viennent de IATA. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on a un côté consommateur qui a envie de profiter, de consommer, de prendre l'avion, et à côté qui demande une transition verte mais qui ne la fait pas à titre personnel? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Bonjour Lord, je pense d'abord que c'est une bonne nouvelle puisque le transport aérien avait été quand même au fond du trou lors de la période du Covid. Donc que les gens aient envie de revoyager, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la consommation et puis pour la découverte, pour les échanges entre les personnes. Le transport aérien, c'est quand même la liberté de pouvoir se rendre à l'endroit où on veut se rendre, et pour un pays attractif et touristique comme la France, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Signe de confiance du consommateur.
Oui, je trouve. Ensuite, sur la transition énergétique, bien sûr, on a le kérosène, on a le carburant, mais il y a quand même beaucoup d'innovations qui commencent à arriver. C'est encore cher, les carburants alternatifs dans le transport aérien, mais ils arrivent. Il y a beaucoup d'innovations aussi sur les motorisations de ces avions qui consomment de moins en moins. Vous regardez les nouveaux modèles d'Airbus, ils consomment énormément moins de kérosène que les avions les plus anciens. Donc, il y a aussi la prise de conscience des acteurs industriels et de transport aérien de la nécessité de transitionner, comme toutes les industries d'ailleurs.
On a besoin de carburant vert, on a besoin de développer la filière hydrogène, on a besoin d'avions qui consomment moins. Vous êtes régulièrement challengé en tant que banque, première banque française, européenne, sur la question des investissements. Vous avez annoncé que d'ici 2030, 90% des financements de BNP Paribas seront alloués aux énergies bas carbone. 2030, c'est demain. On a aussi besoin d'investissements dans le pétrole. Patrick Pouyanné nous le redit régulièrement, si on ne veut pas que ça s'envole, il ne faut pas tout arrêter. Comment vous arrivez à gérer cette transition vous-même?
Nous, on a fait le choix de tourner le dos aux fossiles. C'est fait, on l'a décidé. Et maintenant, nous communiquons sur nos objectifs. Et toutes les parties prenantes, y compris celles qui nous ont longtemps critiquées, prennent vraiment conscience de ces nouveaux objectifs et de la réalité de ces objectifs. Aujourd'hui, la part du financement à l'énergie de BNP Paribas, qui il y a 10 ans était quasi 100%, 90% sur le fossile, est à plus de 60%, 65% sur le bas carbone. Vous l'avez dit, 90% en 2030 et 80% en 2028. Donc tous les grands projets d'énergie bas carbone, nous les finançons en Europe. Vous prenez le grand projet ACC, réunissant d'ailleurs un énergéticien, puisque Total Energy est actionnaire à ce projet, à côté de deux constructeurs automobiles, 4,4 milliards de financement. On peut dire que sans BNP Paribas, qu'il a totalement structuré, ce projet n'aurait pas vu le jour. Donc nous, notre sujet, c'est de pouvoir identifier l'ensemble de ces projets, de les valider technologiquement. Donc ça, c'est des centaines d'ingénieurs chez BNP Paribas, des ingénieurs chimistes, des ingénieurs sur ces nouvelles technologies, qui analysent ces projets, qui les structurent pour qu'ils puissent voir le jour. Donc c'est ça notre valeur ajoutée à la transition énergétique en Europe.
Ça veut dire qu'il y a des moments où vous dites non à Patrick Pouyanné?
Il y a des accompagnements que nous ne faisons pas, puisque nous n'avons pas émis, par exemple, d'obligations conventionnelles, pas seulement pour Total Energy, mais pour tous les autres acteurs. Nous essayons de faire des obligations vertes qui sont fléchées vers des projets de transition énergétique, parce qu'il faut bien comprendre que, compte tenu de la rentabilité des activités anciennes, ce sont ces acteurs qui ont aussi la potentialité, le potentiel pour faire cette transition et faire naître ces projets. Donc on flèche nos financements et il y a des choses auxquelles on renonce.
620 milliards d'euros par an d'investissement dans la transition climatique, c'est ce dont a besoin l'Europe. J'ajoute 125 milliards d'euros pour le numérique, ce sont les chiffres de la Commission européenne. On a besoin, c'est stratosphérique ces chiffres. Pour ça, Emmanuel Macron nous dit il faut faire l'union des marchés de capitaux. On a rapport sur rapport qui disent la même chose, on a ces politiques qui comprennent la nécessité, mais on n'y arrive pas.
Ça fait 20 ans qu'on n'y arrive pas. Je crois que la prise de conscience est là.
Mais sans ça, on ne pourra rien faire.
Sans ça, on ne peut rien faire. Je vous donner trois éléments très rapides. Quand vous regardez les marchés obligataires entre l'Europe et les États-Unis, ils sont trois fois moins importants en Europe. Le capital risque, ce qui donne les fonds propres aux entreprises, il est cinq fois moins important en Europe qu'aux États-Unis. Et la capitalisation boursière des entreprises européennes, c'est 87% du PIB européen, 227% du PIB américain. Donc on voit bien ce retard. Donc maintenant, la prise de conscience est là. de la France et de l'Allemagne. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, il faut y aller de façon concrète. Et les premières choses à faire pour y aller de façon concrète, c'est donner un cadre réellement industriel, comme ça existe aux États-Unis, à la titrisation. La titrisation, c'est quoi ? Je prends des créances dans un bilan bancaire, je les package pour les faire acheter par des investisseurs qui vont les porter. Ce qui permet de déhaler les bilans bancaires pour qu'ils puissent se renouveler avec de nouveaux crédits. Et ce cycle très vertueux, qui fonctionne très bien aux États-Unis, il a vocation à fonctionner
ça,
aussi en Europe.
Les Allemands n'en voulaient pas. Aujourd'hui, ils ont évolué sur cette question. Mais il reste encore des points sur les questions fiscales, où on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à s'harmoniser. Il y a l'idée de ce grand produit d'épargne européen, notamment pour les actifs, pour les pousser à flécher l'épargne. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer à l'action ?
Qu'est-ce qui fait ? Des choses simples, et d'ailleurs, ça a été proposé par le rapport qui vient d'être publié par Christian Noyer, qui est un rapport qui dit de façon très pragmatique, essayons d'aller vers un label qui puisse donner le cadre, les caractéristiques, les critères pour qu'un produit d'épargne d'un pays donné puisse s'investir dans des projets d'investissement européens. Et donc ce label, ça serait un moyen assez rapide d'aller vers ce produit européen sans créer le grand produit, qui au passage existe déjà. Il a été créé il y a plusieurs années, mais n'a pris nulle part dans aucun pays en Europe, parce qu'il était trop compliqué.
Bon, Emmanuel Macron a aussi jeté un pavé dans la mare. C'était à Choose France il y a 15 jours. Il a parlé de la consolidation du secteur bancaire. Il a même ciblé la Société Générale qui pourrait fusionner avec d'autres. Est-ce que c'est souhaitable, cette consolidation peut-être, mais surtout faisable ?
Souhaitable sans doute, parce qu'il y a beaucoup de banques en Europe, sans doute un peu trop. Faisable, très difficile aujourd'hui, puisque les conditions ne s'y prêtent pas. Les conditions ne s'y prêtent pas, parce que pour faire un projet de cette nature, qui est par nature un projet risqué, il faut pouvoir dégager des synergies. Et aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est l'Union bancaire Europe, qui là non plus n'est pas terminée, vous ne pouvez pas tirer parti de ces opérations de consolidation, comme par exemple on peut le faire aux États-Unis. Donc là, il y a encore des blocages qu'il faut lever pour que ces opérations soient possibles un jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais le propos du président, assez générique, était un propos politique qui montrait bien la nécessité d'une plus grande consolidation en Europe, mais difficilement opérationnellement réalisable aujourd'hui.
On peut faire l'union des marchés de capitaux sans avoir d'acteurs pan-européens ? Ça n'a rien à voir ?
On a déjà des acteurs pan-européens, ça dépend des activités, en particulier dans les banques d'investissement. Nous sommes la première banque d'investissement européenne, donc bien sûr, nous sommes prêts pour faire ce pont. Pour faire très simple pour vos auditeurs, l'union des marchés de capitaux, en un mot, c'est faire le pont entre les investisseurs qui ont les moyens de financer l'économie et les entreprises qui ont des investissements à financer. C'est faire ce pont, être intermédiaire du rapport entre l'un et l'autre. Ça, nous savons le faire en Europe, et je dirais que BNP Paribas est bien sûr tout à fait prêt à participer à ce grand projet d'union des marchés de capitaux en Europe.
On parlait de confiance tout à l'heure avec la reprise du secteur aérien. La dette de la France a été dégradée vendredi par S&P. Aucun impact sur le marché obligataire. C'est même une petite baisse qu'on a vue hier sur le taux à 10 ans. C'est un signal qu'il faut prendre en compte ?
Je dirais que c'était déjà anticipé de longue date, le sujet de déséquilibre des finances publiques, malheureusement, parce que c'est un point faible de l'économie française, de la France, son déficit public, c'est bien connu des marchés, donc c'était déjà dans les cours et dans les taux de l'OAT.
Donc, pas d'impact ?
Pas d'impact à court terme, mais quand même un vrai sujet, donc des réformes nécessaires pour, encore une fois, un sujet politique et un sujet aussi économique, puisque le fait qu'on ait trop de dépenses publiques en France et un endettement trop important en rapport au PIB est quand même un sujet sur le long terme. Il va bien falloir le régler un jour.
On a un autre gros morceau qu'on suit ici tous les jours, parce que ça change à peu près toujours, c'est le dossier Atos. Les créanciers bancaires discutent de la reprise d'Atos. On aura une décision, ça sera jeudi. Créanciers dont BNP Paribas fait partie, on dit que votre cœur balance pour l'offre de Daniel Kretinsky.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? On ne commente aucun dossier spécifique, jamais. Il faut juste être patient. Deux jours, c'est vraiment demain.
Bon, on attendra. C'est même après-demain.
C'est après-demain.
Dans notre cas, merci beaucoup d'être venu nous voir, Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas.